Un jour dans l'histoire. Laurent Dehaussée.
Le vendredi 18 mai 1923, à 10h, dans le minuscule hameau de Hulto, juste au nord de Dizon, près de Verviers, s'étincelle qui aura consacré une grande partie de sa vie à militer pour le droit des femmes, pour l'égalité, la liberté, pour la laïcité aussi. Elle s'appelait Marie Mineur, elle avait 91 ans. L'histoire jusqu'il y a peu a été injuste avec cette grande figure de l'émancipation féminine et du mouvement ouvrier, puisque Marie Mineur est morte dans un anonymat presque total. Quelques piqûres de rappel cependant de temps à autre, comme ce groupe de militantes dans les années 70 à La Louvière qui prirent son nom pour lui rendre hommage. Depuis, pas grand chose, mais avec notre invité aujourd'hui, on va se rafraîchir la mémoire.
Alors Marie Mineur s'était donc suggérée, au fond, parler d'Olémina, puisque d'Olémina c'était une ouvrière. Et elles ont dit, mais voilà, il existe aussi chez vous, Marie Mineur. Et alors, en même temps, comme elles le disent elles-mêmes, ce nom était très bienvenu, parce que Marie, c'est très courant. Mineur, ça faisait penser à la mine, ça faisait penser aussi que les femmes sont des mineurs. Mais en fait, c'était son vrai nom à cette femme. Mais si vous voulez, ça avait de la signification à plusieurs niveaux.
Un jour dans l'histoire.
Voilà ici Marie-Denis, une militante qui évoque le pourquoi du nom Marie Mineur, donc donné aux féministes en Wallonne en 1970. Avec nous, Freddy Joris. Bonjour Freddy Joris.
Bonjour monsieur.
Historien, officier du Mérite Wallon. Vous êtes l'auteur aujourd'hui, Freddy Joris, de Marie Mineur, Marie Rebelle. C'est un ouvrage qui paraît aux éditions Avant-Propos, qui a reçu le prix Alexandre de Belgique. Alors avant de faire plus ample connaissance avec Marie Mineur, on va planter le décor, hein, revenir à l'âge d'or de Verviers, cité lainière. Donc nous sommes au dernier quart du 19e siècle. La ville est à son apogée. Ça se traduit comment, cet âge d'or ?
Ah, ça se traduit par ce qu'on peut encore voir aujourd'hui à Verviers, c'est-à-dire un patrimoine bâti extraordinaire. Verviers est une ville qui, en un quart de siècle, à la fin du 19e siècle, arrive à se doter d'un grand théâtre, d'une gare, de tout ce qui est les atouts d'une ville riche pour l'époque, d'un réseau de trams. Ce qui est exceptionnel, il n'y a que 5 villes en Belgique qui ont un réseau de trams. Ça, c'est le beau côté des choses. Et alors, ça se traduit aussi par une misère effroyable pour tous ceux qui triment dans les usines.
On va revenir évidemment à cet état de misère. Il faut rappeler que la Belgique est à l'époque la deuxième ou troisième puissance mondiale aux côtés des États-Unis, de la Grande-Bretagne. C'est à Verviers que débute véritablement le processus de la révolution industrielle au début du 19e siècle, d'une certaine manière.
Oui, juste après l'Angleterre. Ouais. Donc, sur le continent européen, c'est à Verviers que démarre la révolution industrielle. Et la révolution industrielle, c'est que des machines commencent à être construites qui vont remplacer des ouvriers, c'est vrai, mais qui vont aussi permettre un essor extraordinaire.
Avec Cockerill, notamment. Hein.
C'est ça. On est en 1799. William Cockerill, donc le père de John Cockerill, le sidérurgiste, est un mécanicien anglais qui se trouve à ce moment-là dans le nord de l'Allemagne. Un commerçant verviétois fait sa connaissance, voit le genre de machine qu'il construit, le fait venir à Verviers, il s'installe là, et en 1800, il construit et il vend aux deux grands patrons lainiers de l'époque, Biolay et Simonis, les tout premiers assortiments textiles. Ouais. Et ce geste-là va donner à Verviers une longueur d'avance pendant à peu près tout le siècle. Quoi.
Politiquement, ça se traduit comment, Freddy Joris ? Déjà des mouvements de gauche
Oui. Quand je dis que Verviers a eu, une ardeur d'avance, comme les Luxembourg, pendant tout le siècle, ça se traduit politiquement aussi. Donc, c'est à Verviers, dans les années 1840, qu'apparaissent les premiers mouvements qu'on disait à l'époque radicaux. On dirait aujourd'hui l'extrême-gauche. Quoi. Mm-hmm. En fait, c'était l'extrême-gauche du Parti libéral. Les historiens, je veux dire d'autres que moi, l'ont fait avant moi, on considère que c'est la ville où se passent les premières luttes de classe, y compris au sein du conseil communal. C'est la première ville qui élit des conseils communaux, qu'on dirait aujourd'hui d'extrême gauche.
Mais cette gauche, elle touche surtout, au fond, une petite bourgeoisie. Les ouvriers sont illettrés, donc c'est plutôt une petite bourgeoisie qui s'intéresse à ces idées de gauche.
Oui. Donc il faut deux générations avant que les ouvriers commencent à avoir les capacités de se mobiliser. Dans les années 1840, c'est ça. Ce sont des petits bourgeois, donc des enseignants, des patrons teinturiers, un rentier, mais des gens gens qui sont extrêmement sensibles à la condition ouvrière, qui lisent évidemment les grands penseurs socialistes français. Ce sont ceux-là les premiers qui s'engagent.
Et on va voir comment ces idées vont se développer dans une fange plus large de la population.
Un jour dans l'histoire.
Il y a des fabriques par ici ?
Bon. C'est pas les fabriques qui manquent, mais les ateliers ferment les uns après les autres. Ils renvoient du monde à la sucrerie Auton et à la verrerie Garbois. La grève menace. Hein. Ils parlent de réduire les salaires.
Je sais, j'en viens.
Chez nous, ça va, ça va. Ça va encore pour le moment. On n'a pas de la viande tous les jours, mais ça va. Vous êtes peut-être de la Belgique, non ?
Non, je suis du Midi.
Voilà, extrait du film de Claude Berry, hein, bien sûr, Germinal de Zola, les livres de Zola. On a reconnu Renaud, Jean Carmet, Freddy Joris est avec nous pour évoquer ce destin d'une Belge qui a beaucoup fait pour les droits des ouvriers, pour le droit des femmes aussi, à Marie Mineur. Alors, on l'a dit, Freddy Joris, la révolution industrielle en Wallonie se développe à partir des pôles majeurs de l'industrie à Verviers, mais aussi métallurgique et verrière à Liège, à Charleroi, charbonnière dans le bassin liégeois, carolo-régien et Borin. Alors, dans l'organisation sociale, ça se traduit comment ? Le nombre d'ouvriers va exploser.
Oui, c'est ça. Ça se traduit par un déplacement de ce qui était pré-industriel, et là on travaillait dans les campagnes, par un exode de population, un exode rural. Les gens viennent s'entasser dans les villes, dans des conditions de plus en plus épouvantables, évidemment. Et donc c'est de fait l'explosion de la classe ouvrière et un basculement de société qui se fait à Verviers entre 1800 et les choses sont, allez, si je puis dire, terminées. Dès 1840, la ville a basculé. Et ailleurs en Wallonie, comme vous l'avez cité, c'est une vingtaine d'années après.
On estime à 300 000 le nombre d'ouvriers en fabrique, de fabrique, en 1846. 20 ans plus tard, ils seront 500 000 de plus. Des conditions, vous l'avez rappelé, Freddy Joris, de vie effroyable, bien sûr. 14 heures de travail, quand même, par jour, des salaires minimums.
Ah, c'est... Enfin, et même pas parfois de salaire minimum.
Non, les salaires minimes, je dirais.
Vraiment minimes, oui. Oui, je ne sais pas si on en est encore conscient aujourd'hui. Je vais parler de la situation à Verviers. Les usines ouvrent à 5 heures du matin. Mais ça veut dire que pour être à l'usine à 5 heures du matin, il faut sortir de la paillasse, parce qu'on ne peut pas parler dans le lit, vers 4h30 du matin. Traverser la ville, aller à l'usine à 5 heures. Et on travaille jusque 19h30. Avec deux arrêts pour manger, on ne mange pas à l'usine parce qu'il n'y a évidemment pas de réfectoire, rien du tout. On retourne manger chez soi et on repart. Donc c'est 12, 13, 14 heures de bagne, 6 jours semaine, pas un jour de congé. Je dis jusqu'à ce que mort s'en suive. Ouais.
Le pouvoir politique se partage entre deux partis, toujours les mêmes.
Oui, et avec une dominante libérale à Verviers, mais sinon c'est ça, à l'époque il y a deux grandes familles politiques, les libéraux et les catholiques, et là, et à Verviers, il ne s'agit que, mis à part les militants d'extrême-gauche dont on parlait tout à l'heure, que de patrons du textile, quoi, qui eux, par contre, amassent des sommes colossales en ne payant leurs ouvriers qu'un franc par, jour, évidemment.
Ce sont des grandes familles qui détiennent les richesses.
Oui, deux grandes familles catholiques, Biolay et Simonis, absolument liés entre elles, enfin c'est une véritable dynastie. Puis, qui prend un peu plus d'ampleur ensuite, la famille Pelzer.
Alors évidemment, vous l'avez dit, on va commencer, enfin les ouvriers et la partie la plus pauvre de la population va commencer à vouloir plus de droits, plus de bien-être. Il y a au printemps en 1886, le prolétariat wallon participe à une immense émeute anarchique, excepté à Verviers d'ailleurs.
Curieusement, mais ça peut-être s'expliquer là aussi parce que Verviers avait été en avance en termes d'organisation ouvrière et du coup cette manifestation qui était extrêmement violente et un peu improvisée n'a pas gagné Verviers, n'a pas touché Verviers.
Voilà, des arrestations massives, 24 manifestants tués, des résultats assez maigres. Quand peut-on parler d'un véritable parti ouvrier belge ?
À ce moment-là, ça commence à se créer. Quand ont lieu les émeutes de 1886, le Parti ouvrier belge a un an. Il a été créé l'année précédente. Mais c'est le résultat d'une dizaine d'années de tâtonnements pour essayer d'organiser la classe ouvrière en un parti qui, à ce moment-là, est essentiellement flamand et bruxellois, parce que c'est là qu'ont le mieux pénétré les idées marxistes, c'est-à-dire organiser la classe ouvrière en partie pour qu'elle prenne le pouvoir, alors que du côté wallon, et particulièrement à Verviers, ce sont les idées de Bakounine qui l'emportaient, c'est-à-dire, pour faire très bref, la classe ouvrière ne doit pas s'organiser en partie pour prendre le pouvoir, elle doit détruire le pouvoir pour le remplacer par autre chose. Ou c'est plus compliqué, c'est quand on demande exactement à quoi l'autre chose correspond.
On va revenir encore un petit peu en arrière, un an après l'indépendance de la Belgique, à la naissance de Marie Mineur, qui est donc notre héroïne aujourd'hui.
Un jour dans l'histoire.
On voulait vous demander de nous faire encore crédit. On n'a plus rien à manger. On voudrait juste du pain.
Vous fichez du monde ? Encore du crédit ? Vous voulez me mettre sur la paille ? Ça ne vous suffit pas avec tout ce que vous me devez déjà ? Plus une pomme de terre à crédit. Plus une miette de pain. Allez donc faire un tour à l'épicerie Vert donc. Ou à la boulangerie Carouble. Puisque vous servez chez eux maintenant. Allez-y, ils vont vous en faire du crédit, eux.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Germinal encore ici avec ces femmes qui réclament du pain. Nous sommes avec Freddy Joris, donc, qui est l'auteur de cet ouvrage Marie Mineur, Marie Rebelle. C'est en 1831, le 30 septembre exactement, un an donc, après l'indépendance de la Belgique, que naît Marie Mineur. Alors naître fille à l'époque, Freddy Joris, c'est naître vassal au fond. Hein.
Ah oui, tout à fait. Donc tout à l'heure on évoquait le sort de la classe ouvrière, le fait qu'elle ne se révoltait pas. Il faut peut-être rappeler que les ouvriers à l'époque n'ont strictement aucun droit, pas de droit de vote, mais pas non plus le droit de s'organiser en syndicat. Mais alors, parmi les ouvriers, l'ouvrière femme, c'est encore pire, les femmes n'ont alors aucun droit légal. Elles ne peuvent même pas toucher leur salaire elles-mêmes. Elles ne peuvent pas contracter des dettes, mais elles sont solidaires de celles de leur mari. Enfin, la femme est dans un état d'infériorité légale à tous égards.
Quelques voix, quand même, se sont élevées pour réclamer plus de droits pour les femmes, Lucien Jottrand notamment.
Oui. Donc Lucien Jottrand, qui est une des grandes figures de la Révolution de 1830, s'est élevé et a été un des premiers à manifester des idées féministes. Ouais. Une femme aussi, je crois qu'on doit citer, donc on est toujours avant 1848 ici, c'est Zoé Gatti de Gamont. Mais que ce soit Jottrand ou Zoé Gatti de Gamont, on est on n'est pas du tout dans la classe ouvrière.
Et on va revenir un peu plus loin, enfin un peu plus près de nous, à cette création justement du POB que vous évoquiez tout à l'heure. Les idées féministes dans le Parti ouvrier belge, elles n'ont pas forcément la cote non plus.
Ah non, et d'une manière générale, dans l'ensemble du monde ouvrier organisé, la société, d'une façon générale, n'est pas féministe pour un sou. Mais même dans la classe ouvrière organisée, même à gauche, les féministes sont vraiment une minorité. Et notamment sous l'influence de Proudhon, un des plus grands penseurs français, qui était totalement anti-féministe. Et quand le Parti ouvrier belge se crée, officiellement, il réclame l'égalité. Et dans les faits, très vite, il se passe qu'en fait, les femmes n'y ont pas grand-chose à dire. Jusqu'à même qu'en 1901, le POB renonce à demander le droit de vote pour les femmes de façon à faciliter les choses, enfin l'obtention du droit de vote général pour tout le monde.
Vous parliez de sous, c'est aussi une question économique, c'est la peur d'une concurrence au fond.
Oui, il y a ça. En fait, le modèle idéal, c'est la femme au foyer, parce que la femme au foyer, elle ne concurrence pas l'homme pour le boulot, sachant que le patronat, je répète, il n'y a pas de règles pour les fixations des salaires, etc. Pourquoi est-ce qu'on embauche des enfants dans les mines ? Très peu, hein, Verviers, mais enfin, quand même, 5-6%. Pourquoi est-ce qu'on embauche des femmes ? C'est parce qu'on les paye moins cher. Et il y a comme ça une dégradation, une concurrence scandaleuse au sein même de la classe ouvrière.
Alors c'est dans ce contexte-là que donc vient au monde le 30 septembre 1831 la petite Marie Mineur. Elle naît dans la misère. Hein. Son père est ouvrier dans la teinturerie de drap, c'est ça, hein.
Oui, c'est ça.
Pierre-François et puis sa mère, femme au foyer. La petite famille va s'installer sur le territoire d'Audimont. Et puis c'est le drame, elle a 5 ans et demi à peu près, Marie.
Et elle est orpheline. Mm-hmm. Donc ça veut dire que c'était déjà pas un seul salaire à la maison, ce n'était déjà pas joyeux. Mais alors le père qui meurt, donc ça veut dire la mère est obligée à ce moment-là d'aller travailler, mais ça veut dire que les revenus dégringolent. Il faut savoir que n'importe quelle ouvrière était toujours payée plus bas que l'ouvrier masculin, le plus bas qui soit. Donc c'est là, alors, elle plonge dans la misère encore pire. Quoi.
Elles vont être très très unies par ce drame, les deux femmes, les deux maris, mère et fille. Éducation catholique, bien sûr.
Oui, et assez étonnante, assez étonnamment, pas que ce soit catholique, hein, c'était il y avait justement quelques écoles tenues par des institutions religieuses avant que les communes ne créent leurs propres écoles. Mais ce qui est étonnant, c'est que Marie Mineure a réussi à être dans le petit pourcentage de filles qui ont pu suivre quelques cours, apprendre à lire, à écrire, un peu de catéchisme. Alors que la plupart des filles n'allaient jamais à l'école.
Mais l'usine, très très tôt quand même, pour Marie
Mineure. Ah oui, elle est à l'usine à 8 ans. Et ça, c'est vraiment le signe d'une famille miséreuse parmi les miséreuses.
Marie Mineure, c'est une adolescence à l'usine. Elle a 17 ans lorsqu'éclate à Paris la révolution de février de 1848. Au printemps suivant, des démocrates créent à Verviers un club républicain et socialisant. Mais à l'époque, la jeune femme, Marie Mineure, elle a autre chose à faire au fond. Elle se marie assez jeune, hein, elle a 18
ans.
Oui,
à l'époque, elle se marie. Donc on peut penser que ça a primé.
Ouais.
Non, elle se marie très jeune. 18 ans, à l'époque, c'était exceptionnel. On se marie plutôt 27, 28 ouais. ans, parce qu'on travaille le plus longtemps possible.
Joseph Bastin, c'est son...
C'est ça, Joseph Bastin, qui est, même chose, c'est aussi un ouvrier du textile, un journalier, si ma mémoire est bonne, avec qui elle va vivre au moins une quinzaine d'années. Je dis au moins, parce qu'au milieu des années 60, j'ai constaté qu'ils n'étaient plus ensemble, mais ils n'ont pas d'enfants. Alors, c'est volontaire peut-être, c'est peut-être quelque chose qu'il faut signaler, c'est que dès le milieu du 19e siècle, la classe ouvrière a fait aussi une révolution qu'on a appelée la révolution silencieuse au lit. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à se rendre compte que pour s'en sortir, ben, il valait peut-être mieux avoir moins d'enfants. Et quoi qu'en dise monsieur le curé dans les écoles, ils ont aussi commencé à déserter d'ailleurs dans les écoles, dans les églises.
Ouais.
Ben, il y a quand même des méthodes pour les éviter. Et cette dénatalité se manifeste très fort à Verviers à ce moment-là. Alors, c'est peut-être pour ce motif-là, ou tout simplement la nature qui a joué.
Femme de ménage, vendeuse, elle multiplie les boulots, un franc la journée. À tout moment, ils risquent l'expulsion de leur logement, c'est la misère, on l'a dit. Alors, avant d'en arriver à une Marie Mineure militante, avec vous, Freddy Joris, il faut faire un focus sur la société des francs ouvriers, c'est très très important, et qu'est-ce que c'est ?
Ce sont les premiers ouvriers qui s'organisent, non pas sous forme d'une mutuelle, quelque chose comme ça, non, qui s'organisent vraiment avec des revendications politiques. Et ces francs ouvriers vont être un modèle, non seulement au niveau wallon, mais même au niveau belge, d'auto-organisation par des ouvriers eux-mêmes. Les premières organisations ouvrières dans le Borinage, eh bien, ce sont des Bruxellois qui viennent les créer. À Liège, ça se crée beaucoup plus tard. Verviers est vraiment pionnier. Il y a là une dizaine de militants qui organisent ce groupe, les Francs Ouvriers, et en quelques mois, ils créent des groupes dans toute la région.
Et ce qui est important, c'est le relais presse, parce que si j'ai bien compris, c'est une lettre de plainte qui met le feu aux poudres, si j'ose dire, qui est la première étincelle.
Ah, effectivement.
François-Frédéric Joseph Thierry, qui est un tisserand, hein, qui envoie une lettre à un journal.
Voilà, sûr, et qui se plaint des conditions des travailleurs. Il intitule son texte « L'avenir des travailleurs ». Il cite les paroles d'un patron de 10 ans qui est, si les ouvriers ont trop faim, s'ils n'ont pas de quoi s'acheter du pain, Marie-Antoinette avait dit qu'ils mangent de la brioche, le patron en question avait dit qu'ils mangent de l'herbe. Et c'est ça, effectivement, qui déclenche le mouvement. Et alors, très vite, ils vont créer leur propre journal. Alors.
Le Mirabeau.
Le Mirabeau, donc ils reprennent le nom du grand révolutionnaire français.
Donc, dans ce Mirabeau, beaucoup de lettres vont être publiées aussi, d'ouvriers qui se plaignent. Là aussi, il va falloir longtemps, attendre quelques années, avant qu'ils ne publient des lettres d'ouvrières.
Oui,
de 3 ans.
Oui, 4 ans, 3-4 ans. Oui, oui. C'est déjà significatif, hein, ça.
Alors, ce n'est pas. Beaucoup d'organisations vont se créer, vous le disiez, Freddy Joris, mais ce n'est pas à Verviers que des ouvriers vont donner l'exemple d'une organisation spécifique, véritablement. C'est à Montigny-sur-Sambre, c'est ça ?
Les ouvrières.
Oui, les ouvrières.
Effectivement,
ouais.
C'est à Montigny-sur-Sambre en 1870. Ce sont les premières wallonnes. Les premières ouvrières wallonnes qui s'organisent en une mutuelle, enfin je suppose d'après le nom ça devait être une mutuelle, les prévoyantes.
avec toujours, pour accompagner ces mouvements, là aussi, faut le dire, hein, c'est l'AIT, l'Association internationale des travailleurs, ça va être très très important aussi, ça.
Ah, c'est quelque chose de capital. Je ne sais pas, mais je suppose que vous le rappellerez dans votre émission, il n'y a pas que le centenaire de la Première Guerre mondiale, il y a aussi le 150e anniversaire de l'Association internationale des travailleurs, qui est le véritable point de naissance du mouvement ouvrier international. Donc, ça s'est créé à Londres en septembre 1864, section belge ensuite à Bruxelles en 1865 et à Verviers en 1868. Les Francs ouvriers s'affilient à l'Association internationale qui est réellement internationale, qui a des contacts un peu partout en Europe, qui est dirigée depuis Londres un peu en sous-main par Marx, et la section belge va être une des sections les plus dynamiques, la section verviétoise une des plus... J'avais un mot un peu grossier, mais enfin, une des plus enquiquinantes dans le mouvement, quoi. Des plus remuantes, voilà, remuantes
et
mieux.
Et on va voir que parmi les remuants, il y a la plus remuante, c'est Marie Mineur. On va voir avec vous, Freddy Joris, comment Marie Mineur rentre dans l'engagement.
À cette époque, les hommes, les femmes, les enfants travaillaient 16, 17 et quelquefois 18 heures par jour, dans des conditions qu'aucune loi ne réglementait. Et puis... Peu à peu, les ouvriers se sont unis pour lutter. La grève était leur seul art. Tous les ans, dans le monde entier, chaque 1er mai, voyez les travailleurs manifester pour l'amélioration de leurs conditions de vie.
Dans les films français, hein, la CGT historique, les luttes sociales avant la guerre 14, nous sommes en plein dedans avec vous, Freddy Joris, et avec Marie Mineur, donc, qui commence à apparaître anonymement dans le Mirabeau, donc cet organe de presse de gauche, en 1872. Elle signe une femme qui est éveillée. Alors qu'est-ce qu'elle raconte dans ses lettres, au fond ?
Elle fait des allusions à son expérience personnelle, hein, toutes ces années d'usine, etc. Et surtout, elle se focalise sur le fait que les femmes, et c'est une réalité, sont beaucoup trop sous la coupe de l'Église, qui tient évidemment un discours, ne vous révoltez pas, restez bien à votre place, etc. Et la plupart de